Ça nous fait très plaisir de vous voir tous. Et on est reconnaissant de ce que le Seigneur vous a protégé dans votre voyage. J'aimerais dire que, en principe, quand j'arrive sur la plateforme, d'ailleurs occupée pour parler, j'aime bien lire d'abord la parole de Dieu. Ce qui montre, en fait, que ce que la Bible dit est plus important que ce que Jean-Paul dit. Même ce que Jean-Paul II dit. Hein? Ce que la Bible dit, c'est ce qui compte. Les commentaires qu'on peut en faire peuvent être à propos, nous aident à comprendre, mais ils ne sont pas inspirés. Donc, mais j'aimerais quand même faire une exception ce matin, parce que le titre de notre conférence, on s'est rendu compte, avait une certaine ambiguïté. En ce sens qu'on pourrait aussi parler de l'héritage spirituel qu'on a en haut. Vous connaissez tous le verset de Colossiens 1:12 qui nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable de participer à l'héritage des saints dans la lumière. » Ça, c'est aussi un héritage qu'on a en haut. Et l'apôtre Pierre en parle aussi. Un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, etc. Donc, mais ce n'est pas de cet aspect-là de l'héritage. Aujourd'hui, dans notre conférence, c'est ce que nous avons hérité de ceux qui nous ont précédés. Des croyants fidèles à travers les âges qui nous ont légué quelque chose à maintenir, à garder. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Le but de la conférence n'est pas de faire de nous des traditionalistes, comme on le verra au cours de la journée, mais de sans cesse revenir à l'Écriture, à la parole de Dieu. Lisons d'abord dans le livre des Proverbes, au chapitre 23. Proverbes 23, au verset 23. C'est surtout pour la première partie du verset que j'aimerais lire ce texte, où nous lisons « Acquiers la vérité et ne la vends pas. » La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Dans la version Darby, reconnue pour ça, pour être très littérale, c'est traduit « Achète la vérité », ce qui souligne le fait qu'il y a un prix à payer pour connaître la vérité. Il y a une démarche à faire, et peut-être un prix à payer dans le sens que de moquerie que les autres vont nous adresser. Donc, il y a un prix à payer d'études, de recherches, d'exercices de cœur pour connaître la vérité. Mais souvent, on voit des gens pour qui la vérité n'a pas de prix. On la laisse aller. Les connaissances, la parole de Dieu, la position que nous avons comme assemblée chrétienne, c'est des choses qui ont coûté cher. Même l'Évangile, suffit de lire des livres du temps de la Réformation et des grands réveils de l'histoire de l'Église pour voir qu'il y a des chrétiens à qui ça a coûté cher. Et puis aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'enfants de chrétiens ou même de chrétiens qui viennent dans nos milieux évangéliques, pour eux, ça n'a pas de valeur. Ils sont prêts de laisser aller la vérité. Maintenant, j'aimerais lire un peu dans le livre d'Esdras, où il y a beaucoup de choses pertinentes. Premièrement, on va lire dans le chapitre 6 d'Esdras. Au verset 16, les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les lévites et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et comme victime expiatoire pour tout Israël, 12 boucs d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe et les Lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés de concert. Tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères, les sacrificateurs, et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël, revenus de la captivité, mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté, des nations du pays qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie et à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Chapitre 7 au verset 6. Cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres, des portiers et des nétiniens, vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Au chapitre 9 maintenant, et au verset 1er du même livre. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi, on dit dans Esdras 9, en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les lévites ne sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays et les chefs et les magistrats qui ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, et je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchirés et je tombai à genoux. J'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis, « Mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. » Et etc. Ce serait bon de lire aussi la prière d'Esdras. Mais on va lire encore dans le livre de Néhémie au chapitre 8. Le livre de Néhémie se trouve juste après, pour ceux qui ne sont pas familiers, Néhémie chapitre 8. Au verset 1er, Néhémie 8, verset 1, « Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. » Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maaseja, et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkija, Hashum, Ashakdana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Depuis la chute, c'est le propre de l'homme de s'égarer. On voit ça dans l'histoire d'Israël. Dans l'histoire d'Israël, vous rappelez que le peuple d'Israël a été délivré de l'Égypte, un peuple racheté grâce au sang de l'agneau appliqué sur le cadre de la porte, et l'intervention merveilleuse de Dieu qui leur a ouvert le chemin à travers la mer Rouge. Dieu leur a donné la manne, mais peu après, ils ont murmuré. Au début, un gâteau de miel délicieux. Au bout d'un certain temps, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Et pendant tout le temps du désert, ils ont été un peuple que la parole de Dieu appelle rebelle et contredisant. Ça, c'est l'histoire de l'homme. C'est notre cœur naturel, rebelle à Dieu, contredisant, difficile à dompter, un peuple au cou roide, à l'épaule rebelle, au cœur de pierre. Ça, c'est notre cœur naturel. Même des chrétiens, on le garde avec nous toute notre vie. Et plus on vieillit, plus on s'aperçoit combien c'est vrai. Et c'est seulement par la grâce de Dieu qu'on peut avoir la victoire et renverser la vapeur. Rendu en Israël, Israël devait chasser les peuples idolâtres que Dieu voulait détruire, et au lieu de faire cela, ils les ont laissés subsister. Et ça a été comme une épine, et Israël est devenu idolâtre. Et quand on lit l'histoire des 10 tribus, le royaume du Nord, on voit que tous ces peuples, tous ces rois, ils fisquaient mal aux yeux de l'Éternel. Et pour le royaume de Juda, il y en a 12 qui ont mal fait, il y en a seulement 8 où c'est marqué qu'ils fisquaient droit aux yeux de l'Éternel. Alors on voit cela, voyez-vous, et dans l'histoire de l'Église, c'est la même chose. Là, on parle de l'Église responsable sur la terre, qui se réclame du nom de Christ sur la terre, dans un sens large. Ça comprend les vrais chrétiens et ça comprend ceux qui professent sans avoir la vie de Dieu. L'Église s'est éloignée, dans sa grande majorité, de la parole de Dieu. Et dans l'histoire d'Israël, il y a eu quelques réveils. C'est-à-dire, on appelle un réveil un retour à la parole de Dieu, où Dieu s'est servi de quelques individus au cœur sensible, et ils sont revenus à la parole. Et on voit là l'influence d'une minorité. Souvent dans la parole de Dieu, on voit cela, l'influence d'une petite minorité, même d'un individu des fois, qui a une bonne influence. Alors c'est déjà un défi pour nous aujourd'hui. Est-ce que moi personnellement, je vais avoir une bonne influence dans mon environnement, dans une bonne influence bien sûr pour apporter l'évangile parmi ceux que je fréquente à mon travail ou ailleurs, dans ma parenté, mais aussi une bonne influence parmi les chrétiens, parmi les enfants de Dieu. Est-ce que je vais être un modèle? Il y a un défi qui nous est lancé à chacun de nous, d'avoir une bonne influence parmi le peuple de Dieu, et non pas de ceux qui tirent de l'arrière, qui sont chrétiens, oui, mais des boulets à tirer, qui sont mondains, charnels, Alors, il y a déjà là un enseignement. Et dans l'histoire d'Israël, il y a eu en particulier trois réveils que j'aimerais souligner. C'est celui sous Ézéchias. Ézéchias, qui était environ 700 ans avant Jésus-Christ, où à partir de 25 ans, il est devenu roi. Et même s'il avait un père idolâtre, Akaz, renommé pour son impiété, un roi terrible avec Jézabel, bien, Ézéchias a été un bon roi. Et c'est pas pour rien que dans la parole de Dieu, il y a trois fois le récit. Si on peut partir du fait que quand quelque chose est répété dans la parole de Dieu, c'est particulièrement important. Il n'y a rien qui nous autorise à dire que ce que la parole de Dieu dit une fois n'est pas important. Néanmoins, c'est quand même vrai que ce qui est souligné plusieurs fois est d'autant plus important. Ainsi, l'histoire d'Ézéchias, elle est dans les rois, dans les chroniques et dans Ésaïe. Donc, elle est importante. Et on voit un retour à la parole de Dieu. On aurait pu avoir seulement cela comme sujet aujourd'hui, les réveils dans l'Ancien Testament. Mais on veut couvrir plus de sujets aujourd'hui. Alors, il y a aussi eu le réveil du temps de Josias. Josias devint roi à 8 ans. Il commença de rechercher l'Éternel. On voit que la piété n'atteint pas d'avoir les cheveux blancs ou les cheveux gris, ou même la majorité. Un jeune garçon, dès le début, ça c'était 100 ans plus tard, le peuple était de nouveau devenu idolâtre, mais un jeune garçon qui devient roi à 8 ans et qui, dès le début, a une bonne influence sur le peuple d'Israël. Et vous rappelez, c'est dans le temps de Josias qu'en faisant des fouilles pour restaurer la maison de l'Éternel, il retrouve le livre de la loi qui avait été perdu. Et vous rappelez que le roi devait la lire tous les jours ou se la faire lire. Ils ont retrouvé le livre de la loi. Et on en reparlera. L'influence de retrouver la parole de Dieu. Parce qu'on peut perdre notre Bible, pas seulement perdre le livre littéralement, puis savoir où on a mis notre Bible, mais on peut la perdre en ce que notre Bible peut devenir un ramasse poussière. Qu'on la lit plus, on l'étudie plus. Alors que ce qui fait notre force personnelle et collective, c'est notre lecture et notre étude de la parole de Dieu. Plus qu'un petit moment, juste 10 minutes, 15 minutes avant de partir travailler le matin, ça prend de temps des périodes plus longues pour lire, étudier la parole de Dieu. Alors on voit ça du temps d'Ozias. Et le réveil d'Esdras aussi. Vous vous rappelez qu'Israël, à cause de son incrédulité, de son impiété et de se détourner vers l'idolâtrie sous l'influence de mauvais rois, bien Israël a abandonné Dieu. Et Dieu les a livrés à leurs ennemis. Les rois d'Assyrie, les rois de Babylonie, et ils ont été emmenés en captivité. Dans ce temps-là, c'est comme ça qu'on punissait un peuple vaincu. C'est comme ça qu'on les martyrisait, on les emportait en captivité, enchaînés. Hommes, femmes, enfants, vieillards, enchaînés, devaient marcher des kilomètres et des kilomètres. Comme on voit que Esdras, ça a pris un effort, ça lui a pris plusieurs mois pour revenir depuis la Babylonie, entre autres c'est l'Irak, ça, et pour revenir à Jérusalem. Donc, dans le temps d'Esdras, il y a aussi eu un réveil. Et j'aimerais ce matin qu'on regarde un peu les étapes de ce réveil, parce qu'elles le sont. Dans l'histoire de l'Église, je fais un peu parallèle, voyez-vous, d'une part Israël, on va prendre des leçons spirituelles dans l'Ancien Testament, mais d'autre part le Nouveau Testament. Vous savez, il y a deux facteurs importants pour diriger notre vie. Évidemment, à part l'étude de la parole de Dieu, que je viens de souligner, la prière, et les deux ensemble, c'est la piété, c'est-à-dire Dieu me parle par sa parole, et je lui parle par la prière, c'est ça la piété, l'exercice de la piété, dont il est question dans les épîtres pastorales. Bien, il y a deux autres choses importantes. Connaître le passé et connaître l'avenir. Connaître le passé, c'est étudier l'histoire dans la Bible, et aussi l'histoire ecclésiastique, l'histoire de l'Église. On a dit avec raison, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais ça a été dit avec raison, ceux qui veulent ignorer l'histoire se condamnent eux-mêmes à répéter les mêmes erreurs. Donc c'est très important d'étudier l'histoire. On voit les erreurs d'autres avant nous, et en les regardant, on essaye d'éviter les mêmes erreurs. et l'avenir, connaître les prophéties. Pourquoi? Parce que la connaissance des choses de demain nous aide à mieux vivre aujourd'hui. Sachant que le Seigneur va revenir, peut-être aujourd'hui, demain, dans l'avenir, ça m'aide aussi, ça change mon comportement aujourd'hui. Donc, ces deux éléments, connaître le passé pour éviter de refaire les mêmes erreurs que d'autres ont faites, si c'est possible, et connaître l'avenir aussi par la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire l'occultisme quand on dit connaître l'avenir. Ça veut dire connaître les prophéties bibliques. Ça nous influence dans notre jugement des choses, dans notre appréciation, si vous aimez mieux le mot. Donc, dans l'histoire de l'Église, on voit dans la parole de Dieu déjà, par plusieurs des écrivains, que dès le début de l'histoire de l'Église, on assiste à un déclin. Un déclin. Un déclin, ça veut dire ce qui diminue d'intensité. Ce qui diminue d'intensité. Ce qui commence à régresser. Dans l'Apocalypse au chapitre 2, avec l'Église d'Éphèse, vous vous rappelez, « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Ça a commencé là. Puis ça finit avec l'Église de Laodicée, où le Seigneur appelle depuis dehors. Il n'est plus là. Et on voit ça dans la parole de Dieu. On voit ça déjà aussi dans l'enseignement du Seigneur Jésus, que les choses allaient se gâter. On le voit dans les paraboles de Matthieu 13, c'est clair, la parabole de l'ivraie, qui allait être semée parmi le bon grain. On voit ça aujourd'hui, le mal qui est venu dans l'Église, si bien que tout ce qui a le nom Église aujourd'hui est pollué, si l'on peut dire ainsi, a été gâté. Tout ce qui est laissé à la responsabilité de l'homme est tôt ou tard gâté. Et puis là, on n'est pas pour blâmer les autres. J'en prends moi-même ma responsabilité, et nos milieux en ont la responsabilité aussi. On a gâté ce qui aurait dû être merveilleux. Prenez l'unité de l'Église. Les vrais chrétiens sont fractionnés en une multitude de groupes et de dénominations. Au lieu d'être tous ensemble, imaginez-vous la perte de puissance. Parce que ce n'est pas dans la Bible, l'union fait la force, mais c'est vrai quand même. C'est triste, mais c'est ça qui est arrivé. Et le Seigneur l'avait dit aussi dans la parabole du levain. Le levain qui se répand à travers toute la pâte, bien, le levain dans la Bible, c'est pas seulement le mal, c'est un symbole du mal et de l'activité ou l'action du mal dans la parole de Dieu. Le levain s'est répandu partout, partout, le mal est répandu donc partout. Ainsi, on voit cela aussi dans les paraboles. Et aussi le grain de senvé ou de moutarde, selon les versions, qui doit devenir un grand arbre. Ça nous représente l'influence du christianisme. Promenez-vous dans les campagnes au Québec, puis regardez les grandes églises, partout un petit village de rien, plutôt modeste, je veux dire, même comme point de vue financier, au point de vue, c'est pas un endroit riche, puis on voit une belle grande église. On voit là l'influence du christianisme. Dans les endroits protestants, comme East Broughton, on va là, puis on voit là, petit village de rien, quatre églises. C'est un autre aspect. Mais on voit l'influence du christianisme. Vous, un grand arbre. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Des oiseaux dans ses branches. Et quand on vient à l'Apocalypse, au chapitre 18, on voit le repère de tout oiseau impur. Toutes sortes de choses qui ne sont pas correctes, qui se sont infiltrées à travers le christianisme. Et il y a même des gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, puis qui sont d'une mentalité hindoue, croient à la réincarnation et toutes sortes de bêtises comme ça. Et sans que ce soit aussi grave dans les milieux évangéliques, il y a quand même une mauvaise influence. L'influence du mal, du levain, pénétrée partout. Manque de séparation du mal. Donc déjà dans l'enseignement du Seigneur, sous-entendu dans les paraboles, l'apôtre Paul, dans Acte 20, ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Imaginez-vous, dès que l'apôtre Paul devait ne plus être là, déjà des loups cruels qui chercheront à attirer des disciples après eux, un esprit de parti. C'est vrai, dans l'église, il y a des groupements chrétiens qui portent le nom d'un homme. un esprit de parti, ce que la Bible n'avait jamais voulu. Et dans la première épître à Timothée, au chapitre 4 aussi, l'Esprit le dit qu'il y aura toutes sortes de doctrines, les hommes s'éloigneront de la foi. L'apôtre Pierre, de même qu'il y a eu des faux prophètes, il y aura de faux docteurs qui s'introduiront. L'apôtre Pierre en parle aussi. L'apôtre Jean aussi demande d'avoir du discernement. L'esprit de l'Antichrist était déjà là. Des faux Christ, des influences qui ne sont pas de Dieu et qui pénètrent parmi les enfants de Dieu et parmi ceux qui se réclament du Seigneur Jésus, qui se disent chrétiens nominalement. L'apôtre Jude aussi en parle dans son épître. Donc, la voix prophétique était claire que les choses allaient se gâter. Ça a commencé, comme on l'a dit, par le déclin, puis ça va terminer par l'apostasie. Et on vit en plein dans ces temps-là aujourd'hui. L'apostasie, c'est l'abandon de la vérité. Ça vient d'un mot qui veut dire l'abandon. Et on assiste à ça aujourd'hui. Et vous savez que, si vous ne savez pas, vous devez savoir, devrais-je dire, qu'il y a eu aux États-Unis certaines déclarations qui ont été faites par différents milieux évangéliques, par des organisations dites chrétiennes évangéliques, qui sont maintenant la main dans la main avec l'Église catholique. Et si on regarde au niveau de l'Église catholique, on sait que le pape a donné sa bénédiction à des bouddhistes, à des animistes. Les animistes, c'est en Afrique, ceux qui adorent les forces de la nature, le soleil, les plantes, etc. On voit graduellement un mouvement qui correspond à ce que la Bible nous annonce, qu'on s'en va vers un jour où ça va être la grande prostituée sera manifestée. Et les chrétiens doivent être avertis. Un homme averti en vaut deux. On doit être mis sur nos gardes. Ou le mal pénètre partout. Je ne veux pas dire que personnellement, vous êtes dans cette catégorie, néanmoins, il y a une influence, il y a un courant aujourd'hui de mélange, de salade, alors qu'on doit clairement distinguer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, mais d'un autre, dont vous connaissez le nom, Satan, l'adversaire, qui lui veut mêler les cartes pour employer un langage peut-être plus compréhensible. Et on est dans ces jours-là. Mais il y a eu, malgré cela, à travers les âges, des réveils. Là, on ne parle pas nécessairement d'un réveil où il y a eu un puissant mouvement de l'Esprit de Dieu avec des quantités de conversion, mais un retour à la parole de Dieu. Non seulement dans l'histoire d'Israël, mais dans l'histoire de l'Église. Qu'on pense, par exemple, au précurseur de la Réformation, Jean Hus, en Tchécoslovaquie, à Prague, qui a été brûlé vif, Wycliffe, en Angleterre, qu'on prenne les réformateurs, Luther, Calvin, Farel, John Knox, Pierre Viret, ces hommes-là, des hommes, des géants intellectuels et spirituels, des hommes puissants en parole et en action, qui ont prêché l'Évangile. Et des milliers de personnes ont été converties dans ces milieux-là. Et la Réformation même a été précédée par les justement ceux que j'ai mentionnés, Wycliffe, etc. Mais plus tard, il y a eu aussi les frères Moraves qui ont eu une grande influence, peu connus ici, inconnus peut-être de la plupart de vous, mais des groupes de chrétiens qui ont eu un esprit missionnaire, qui ont annoncé l'Évangile et qui avaient un sincère désir de revenir à la parole de Dieu, alors que la grande majorité de ceux qui se disaient chrétiens étaient dans une semi-idolâtrie, pour ne pas dire une complète idolâtrie, et sont revenus à la parole de Dieu. Qu'on pense aussi au réveil avec les frères John et Charles Wesley en Angleterre, au 18e siècle, qui ont eu une grande influence, qui ont même, selon certains historiens, sauvé l'Angleterre du désastre. Maintenant, on doit dire, la Bible n'approuve pas nécessairement le colonialisme, ni non plus le racisme. Néanmoins, ce qui a fait que des pays ont été bénis de Dieu, c'est grâce aux chrétiens. Grâce aux chrétiens. Et l'influence sanctifiante qu'ils ont eue dans leur génération. Dans tous les pays qui ont été grands au point de vue économique, que vous preniez l'Angleterre, que vous preniez les États-Unis, que vous preniez la Suisse n'est pas grand, c'est 36 fois plus petit que la province de Québec. Mais néanmoins, c'est un pays qui a été béni de Dieu. À cause de quoi? À cause de l'Évangile. Mais c'est bientôt tout perdu. Même au point de vue économique et financier. Des pays qui ont été grands, qui ont été bénis, c'est grâce à l'influence des chrétiens. Parce que vous savez, quand il y a beaucoup de chrétiens dans un pays, il y a de l'honnêteté, il y a de la droiture, on se mêle de ses affaires, on travaille, c'est une bénédiction pour un pays, l'influence des chrétiens. Donc c'est de cela qu'on veut parler aujourd'hui, c'est retour à la parole de Dieu. Maintenant, dans l'histoire de l'Église, on peut dire que à la Réformation, ce qui a caractérisé la Réformation, c'est cette phrase « Dieu est celui qui justifie ». La justification par la foi. Pourquoi? Ça a été provoqué, si vous étudiez, par le trafic honteux et scandaleux des indulgences. Péchez tant que vous voulez, faites tout ce que vous voulez, pourvu vous payer. Un trafic honteux. Et vous savez que Saint-Pierre de Rome a été en partie construite, sinon terminée et arrangée par l'argent qui tombait de la poche des chrétiens. Et je ne me rappelle plus lequel de ces papes avait dit, au moment que l'argent tombe dans la marmite, on est délivré du purgatoire. Et Luther, un moine allemand, a écrit sa fameuse thèse à Wittenberg, 95 articles, où il a protesté. Au début, les réformateurs, ils voulaient réformer l'Église. C'est ça qu'on appelle certaines églises l'Église réformée, ils voulaient la changer. Mais ils ont été obligés de sortir de l'Église. Et ils ont prêché l'Évangile avec puissance. Quand on pense que dans des villes comme Genève, en Suisse, il n'y avait même plus de catholiques romains dans cette ville. On n'est pas anti-catholique, mais on doit quand même reconnaître qu'à cette époque, l'Église n'était pas comme elle est aujourd'hui. Et les gens qui n'étaient pas convertis de cœur, ni de nouveau, étaient convaincus du moins intellectuellement. Ça a été une bénédiction extraordinaire. Les gens se sont tournés vers l'Évangile. Il y avait des débats dans les grandes églises, dans les grandes cathédrales. Puis les gens étaient convaincus que la Bible était la vérité. Et Dieu a permis, dans sa souveraineté, et que l'imprimerie soit découverte à ce moment-là. Et ça a contribué, évidemment, à répandre la parole de Dieu. Mais avec le temps, le rationalisme s'est installé. Et de nouveau, la Bible a perdu la place qu'elle avait. Le diable, d'abord, il attaque. Ensuite, il essaye de contrefaire, d'imiter, de gâter, de détruire. C'est ce qu'il a fait. Mais au début du 19e siècle, ça veut dire il y a à peu près 150 ans, un peu plus, il y a eu de nouveau un puissant mouvement de l'Esprit de Dieu. Un puissant mouvement de l'Esprit de Dieu. Où des hommes, et souvent Dieu s'est servi d'hommes qui n'étaient pas les moindres, des hommes intelligents, capables, qui eux sont revenus à la parole de Dieu. Et ils sont allés plus loin que les réformateurs. Ils ont trouvé non seulement la justification par la foi, mais celui qui justifie, le Seigneur Jésus lui-même. Et c'est à partir de ce moment-là que beaucoup de vérités ont été retrouvées. Elles étaient toujours là dans la parole de Dieu, mais elles étaient perdues de vue. Ce matin, j'aimerais regarder un peu, parce que ce qui compte, c'est aussi, c'est surtout, disons, ce que la parole de Dieu dit. Dans le livre d'Esdras, qu'on a lu, les 7 étapes d'un vrai réveil. Il y a un livre qui a été écrit par le frère David Long sur les réveils. J'ai pas le temps de lire, c'est ce que j'ai trouvé moi-même dans la parole de Dieu que je vous communique ce matin. Ce que j'ai découvert en étudiant le sujet, moi-même. La première des choses, dans le livre d'Esdras, au chapitre 7, nous voyons Esdras, au verset 10, avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. On voit un exercice de cœur d'un homme qui, lui, se plonge dans la parole de Dieu. C'est ce qu'on a besoin dans nos assemblées. C'est des hommes qui ont le temps, ou plus justement, qui prennent le temps d'étudier la parole de Dieu, de connaître l'Écriture. Il avait pris le temps, il avait à cœur d'étudier la parole de Dieu, voyez-vous. Il avait appliqué son cœur. S'appliquer, vous savez ce que ça veut dire, hein? On dit aux enfants à l'école, applique-toi donc. Ça veut dire, fais les choses comme il faut, fais tes devoirs comme il faut, écris comme il faut au lieu de barbouiller. S'appliquer. On a besoin de s'appliquer. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Ça prend des fois de se priver de choses, d'activités récréatives légitimes pour prendre du temps, pour étudier la parole de Dieu. Ça prend un homme ou un groupe d'hommes. Au chapitre 9 et au verset 4, voyez-vous ce qui est marqué aussi? Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël. Alors quand j'ai lu ça, j'ai relu, je l'avais déjà lu, mais quand je l'ai relu, ça m'a moi-même touché. Vous savez, je me rappelle quand j'étais petit garçon, un prédicateur qui a dit une fois, les premières fois que je me levais dans l'assemblée, je tremblais. Puis un autre a dit, c'est de valeur que tu trembles plus. Parce qu'on devient habitué de parler devant le public. Mais on devrait toujours trembler quand on lit la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on a peur d'y désobéir. On a peur de dire aux autres qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, puis de ne pas le faire nous-mêmes. Ça doit nous faire trembler. Et c'est trop souvent le cas, on ne tremble plus. Alors on voit l'influence d'un Esdras qui avait pris du temps pour lire la parole de Dieu. Dans un livre chez nous, j'ai lu une fois qu'on pense, ce n'est pas sûr ça, je ne suis pas dogmatique là-dessus, on pense que c'est Esdras qui a écrit le psaume 119. Il n'y a pas de nom d'auteur dans notre Bible. Puis regardez le psaume 119, tout ce que l'auteur dit de la parole de Dieu, comment elle est précieuse. J'aime tes commandements, ils sont précieux. Et vous, la valeur de la parole de Dieu est décrite dans ce merveilleux psaume le plus long, le psaume 119. Quand j'allais à l'école du dimanche, puis que la monitrice me disait, pour dimanche prochain, vous apprendrez un psaume. Moi, j'apprenais toujours le 117, parce que c'est le plus court. Jamais appris le 119 par cœur. Mais lisez-le, le psaume 119. Regardez la valeur de la parole de Dieu et l'appréciation de l'auteur. C'est possible que ce soit Esdras qui l'ait écrit. Alors, un homme pour qui la parole de Dieu est précieuse est l'influence d'un petit nombre. Il y aura toujours des chrétiens charnels. Il y aura toujours des faibles. Comme dans le peuple d'Israël, il y avait des traînards. Puis c'est ces traînards-là qui se traînaient avec d'autres qui ne faisaient pas partie du peuple, qui ont commencé de murmurer, puis qui ont eu une mauvaise influence, qui ont fait murmurer le peuple, ceux qui étaient en arrière. Donc, l'influence d'un petit groupe qui a une bonne influence dans l'assemblée. Ensuite, on voit, cet Esdras avait appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu. Une étude sérieuse et systématique pour comprendre la parole de Dieu. J'ai souvent dit, peut-être ici déjà aussi, la parole de Dieu, il faut l'étudier dans les grandes lignes et dans le détail. Il faut connaître les grandes lignes de l'histoire, de la parole de Dieu, un panorama de la parole de Dieu, comme si on ne veut pas se perdre dans une ville, il faut connaître les grandes artères, l'est à l'ouest, puis le nord au sud. Si on connaît les grandes artères, on ne se perd pas dans une ville, même qu'on ne connaît pas toutes les rues. Bien, c'est la même chose dans la parole de Dieu. Il faut connaître les grandes lignes. Israël et l'Église, le salut, les récompenses, la loi et la grâce, etc. Il faut connaître aussi le détail. Il faut prendre du temps pour étudier un mot, une doctrine, etc. Pour vraiment être versé dans les Écritures. C'est ce qu'était Esdras. Troisièmement, mettre en pratique. Il avait étudié et à mettre en pratique. Parce que je pourrais devenir un géant intellectuel, un expositeur sans pareil de l'Écriture, mais je ne mets pas en pratique. C'est sûr que quand on regarde vraiment, je ne mets jamais en pratique tout ce que je connais. Je reconnais, au contraire, que j'ai des progrès à faire, néanmoins, mettre en pratique ce que j'ai compris de l'Écriture et avoir le désir de le mettre mieux en pratique. Vous avez déjà remarqué, quand il a parlé de Moïse, il dit « Il était puissant en parole et en œuvre. » Tandis que quand il a parlé du Seigneur Jésus, « Puissant en œuvre et en parole. » Il y a distinction, parce que le Seigneur Jésus mettait en pratique tout ce qu'il enseignait. Tandis que Moïse, au mieux aller, était encore imparfait. Ensuite, communiquer aux autres, comme on l'a lu, Esdras était sur une estrade, il a communiqué au peuple. Puis ici, on l'a aussi dans Esdras 7, au verset 10, enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Communiquer aux autres. C'est pas tout le monde qui est un enseignant, mais c'est tout le monde, tout chrétien, aussi bien les sœurs que les frères, qui peuvent communiquer, donner aux autres la parole de Dieu. Non seulement l'Évangile à ceux qui ont besoin du salut, mais aussi aux autres frères et sœurs. On est tous solidaires les uns aux autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Il n'y a pas de distinction. On peut tous communiquer une parole et avoir une bonne influence en communiquant aux autres la parole de Dieu, ce qu'on sait. C'est bien connu que on doit emmagasiner, mais on doit aussi communiquer, donner aux autres ce qu'on a reçu. Donc, communiquer aux autres. Les hommes de réveil, ils ont étudié la parole de Dieu, ils ont eu affaire avec Dieu dans le secret, dans l'intimité, ça c'est important, parce que si on veut tout de suite faire toutes sortes de choses, on est comme un arbre qui n'a pas de racines. Un coup de vent, puis il est tombé par terre. Il faut que notre vie intérieure et cachée, notre étude secrète et personnelle de la parole de Dieu, soit aussi importante que notre ministère public. Autrement, on va être renversé. Donc, communiquer aux autres ce que l'on sait, ce qu'on en a appris. Cinquièmement, un intérêt et un zèle marqué pour la cause de Dieu. Esdras, au chapitre 7, au verset 8 et 9, il arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année. J'étais parti de Babylone le premier jour du premier mois, il arriva le premier jour du cinquième mois. C'est pas compliqué, ça fait 4 mois de voyage depuis l'Irak, à pied, jusqu'en Israël. Ça demande un effort. On est dans une société, aujourd'hui une civilisation, du moindre effort. On pèse sur le bouton, puis les vitres descendent de la voiture. Ou bien on arrête à peser sur le gaz, la machine avance. On n'a pas besoin d'atteler les chevaux et puis de les fouetter pour les faire mettre en avant, pour les faire avancer. On a le cruise control, on n'a même plus besoin de pied sur le gaz. On a un four à micro-ondes, ça prend quelques secondes. Puis le dîner est prêt. Toutes ces choses, c'est pas mal, on critique pas ces choses-là. C'est un bienfait pour lequel on peut remercier Dieu. Mais néanmoins, la vie facile nous pourrit tranquillement qu'aujourd'hui, personne ne veut faire d'efforts. Bon, personne, peut-être exagéré, mais aujourd'hui, c'est la loi du moindre effort. Tout est facile. Il n'y a qu'à voir quand on veut chauffer au bois, le trouble, ceux qui vont couper le bois dans la forêt, qui vont le débiter, qui vont l'amener chez eux, le rentrer à la cave, le remettre dans le poêle, le trouble que ça donne à comparer de tourner le thermostat. Alors, ça donne une idée que toutes ces choses-là nous rendent aussi paresseux. Même les livres d'école, on le voit, même une génération. Aujourd'hui, c'est de préparer les cahiers, il n'y a rien qu'à rajouter les choses, tout est facile. Alors, ça nous rend même spirituellement paresseux. Paresseux! La loi du moindre effort. Esdras, un voyage de 4 mois pour partir, pour s'en retourner à Jérusalem, l'affaire de ses ancêtres, parce qu'il avait à cœur le bien du peuple de Dieu. Ça, c'est la motivation. Avoir à cœur le bien du peuple de Dieu, les intérêts de Dieu. Un intérêt et un zèle marqué pour la cause de Dieu. Ensuite, on a lu plus loin aussi la confession des péchés dans un esprit d'humiliation. On confesse les péchés. On s'est éloigné. La tendance de mon cœur, c'est de me laisser aller. Ensuite, la restauration du culte. Dans le temps d'Ézéchias, que j'ai nommé, dans le temps de Josias, puis dans le temps d'Esdras, les résultats, ils célébrèrent la Pâque. Quand vous lisez dans le chapitre 12 de l'Exode, vous voyez combien la Pâque est importante. Ça célèbre la rédemption. La Pâque, elle anticipe la croix, et la Sainte Cène, le repas du Seigneur, commémore la croix. C'est important pour Dieu, ça, le temps qu'on passe avec lui. Notre travail pour Dieu doit dépendre, le travail pour le Seigneur dépend de l'appréciation qu'on a du Seigneur. Donc, le repas du Seigneur est important. On rafraîchit notre mémoire, on en reparlera aujourd'hui, sur le prix de la rédemption. Et quand Dieu se révèle à son peuple, regardez ça dans le livre des Juges, « Je suis l'Éternel qui vous ai fait monter hors d'Égypte ». Dieu en revient toujours à la rédemption. Et le repas du Seigneur, c'est le rappel de la rédemption. Donc, dans le temps d'Ézéchias, ils ont célébré la Pâque, il n'y avait pas eu de Pâque semblable depuis le temps de Salomon. Dans le temps de Josias, pas eu de Pâque semblable, sont revenus plus loin depuis le temps de Samuel, dans les juges. Et puis dans le temps d'Esdras, comme il est prescrit dans le livre de la loi de l'Éternel, ils sont revenus. À la Réformation, ils ont démoli, évidemment, la transsubstantiation, mais ils ont gardé certaines erreurs. Luther, il parle de la consubstantiation, et puis Calvin, il parle de l'impanation, comme si le Seigneur était dans le pain, tandis que nous, nous croyons à un mémorial. Au siècle dernier, on est revenu à l'enseignement de la parole de Dieu. Le temps passe vite. Pour quelques minutes seulement, j'aimerais parler du réveil des assemblées. C'est depuis 1817, en Angleterre, en Suisse, à Genève, qu'on est revenu à la parole de Dieu. Des hommes de Dieu, en étudiant la Bible, se sont dit, on s'est éloigné de la parole, on veut revenir à la parole de Dieu. Et ils sont sortis des églises qui avaient été fondées par les réformateurs, qui étaient des églises d'État, des églises où les pasteurs sont payés par le gouvernement, et ils se sont réunis simplement au nom du Seigneur Jésus. Et en Angleterre, en Irlande, pardon, pas en Angleterre, mais à Dublin, en Irlande, c'est en 1826 que des chrétiens se sont réunis pour, en toute simplicité, en regardant le Saint-Esprit comme leur président. Ici, j'ai deux livres, chez moi, j'ai une quinzaine de livres, au moins 15 ou 20 livres d'histoire ecclésiastique. Mais j'ai un vieux livre ici qui parle du début des assemblées de frères, qui a été écrit en avril 1861. Donc, il y a 123 ans. Puis là-dedans, il dit, entre autres, il dit que la responsabilité particulière sur laquelle nous sommes placés consiste donc à reconnaître le Saint-Esprit en tant que vicaire de Christ et le seul souverain dans l'Église, réellement présent, parfaitement suffisant pendant l'absence de notre Seigneur. C'est là ce qui doit être le trait principal de notre témoignage. Le Saint-Esprit qui parle par la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de vérité et la parole de vérité marchent ensemble comme deux voies de chemin de fer. J'ai ici un autre livre aussi qui rappelle l'histoire de l'église d'Appelisserie. J'étais là à Genève, ils sont là depuis 1839. Et c'est depuis 1817 que des chrétiens se réunissent dans la simplicité du Nouveau Testament. Au début, ça s'appelait l'église du Bourg de Four. Aujourd'hui, c'est la chapelle de la Pélisserie. J'ai prêché une fois là, à la même place où John Nelson Darby a prêché, il y a 150 ans. Alors, c'est assez spécial. C'est un vieux bâtiment, mais qui a été rénové. Alors, c'est pas important d'allonger trop, comme on a dit, on veut pas être des traditionalistes, mais c'est pour montrer que s'il y a eu dans l'histoire d'Israël des retours à la parole de Dieu, il y a eu dans l'histoire de l'Église aussi des retours à la parole de Dieu. On pourrait en parler longtemps, mais ce qu'on a dit suffit pour nous montrer l'importance de ce sujet, de revenir continuellement à la parole de Dieu, pour revérifier nos convictions, pour se retremper dans la parole de Dieu, pour être continuellement renouvelé ne pas simplement suivre des hommes, seulement suivre des formes extérieures, mais que de nos cœurs, notre désir soit vraiment un attachement à la personne du Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit, c'est si d'une part, à la réformation, on est revenu à la justification par la foi, au siècle dernier, on est revenu à la personne même du Seigneur Jésus, qui est centrale dans notre vie personnelle et dans notre vie d'assemblée, et évidemment à la mise en pratique de certains principes qu'on trouve dans la parole de Dieu. C'est ce que notre frère Raymond Ricard va nous parler tout à l'heure. Merci. Excusez-moi, j'ai un peu dépassé l'heure, mais il y aurait tellement de choses à dire.